Merci Bénédicte pour avoir aussi bien planté le décor. Moi je vais être assez court, je crois. Je ne suis pas chronométré, mais je vais essayer de faire 5-7 minutes. Vous avez remarqué, on est assez chrononormopathe à Bruxelles. En tout cas, je parle pour toi et moi, Bénédicte. Donc, effectivement, moi j'ai eu la chance et l'occasion de travailler avec l'équipe d'écologie de Bruxelles pendant 3 mois sur un potager qui est un potager que j'ai appris. Qu'on appelle le potager de la rue Navet. Vous avez une photo ici. C'est les terres cultivées que vous avez au centre de la photo. Donc c'est la rue Navet. La rue Navet, c'est une rue qui se situe dans la commune de Schaerbeek, car Bruxelles et la région Bruxelles-Capitale est composée de
19
communes. Et Schaerbeek fait partie de ces communes, une commune qui est située au nord de la région. Je suis un néo-bruxellois, enfin ça fait 5 ans, mais j'ai toujours quelques hésitations sur la géographie. Alors c'est un potager qui est composé d'une vingtaine de parcelles, qui d'une surface approximative d'1,2 hectare. Alors c'est un vieux potager, hein, puisque tu as parlé des potagers anciens. C'est un potager, on suppose qu'il est mis en culture depuis au moins le début des années 30, peut-être avant. Donc, c'est une photo aérienne qui date de 1936. C'est un potager qui est enclavé, qui est situé dans les interstices de la ville, puisqu'en fait il est entre une rue, donc la rue Navet qui est sur la droite, et des voies de chemin de fer. Donc en fait il est soustrait à la vue des passants, très difficile de l'apercevoir. D'ailleurs, la première fois que j'ai essayé de m'y rendre, j'ai passé un bon moment à essayer de comprendre par où passer pour essayer d'y accéder. Et du fait notamment qu'il soit soustrait à la vue des passants. Par contre, quand on prend le train, on le voit. Enfin, c'est un train que vous voyez. Enfin, si vous avez eu l'occasion de venir notamment par le nord de la ville, c'est des potagers qu'on remarque quand on est dans le train. Mais du fait qu'il soit soustrait à la vue, c'est un potager qui accumule d'une certaine façon toute une série de problèmes, puisqu'il accumule des déchets. Il sert de décharge illégale pour toute une série, pour des constructeurs, pour toute une série de personnes. Il sert aussi de lieu de shoot, hein, toute une série de toxicos, d'usagers de drogue qui profitent effectivement de cet enclavement pour se shooter dehors de la vue effectivement des passants. C'est aussi un lieu de vol et de vandalisme. Pas mal de personnes. On y a aussi retrouvé des câbles dénudés, vous voyez le caoutchouc pour récupérer les cuivres. Les câbles d'infrabel et ça voûte à cette accumulation de problèmes des terres polluées. Mais je reviendrai sur cet avou. Alors peut-être aussi, puisqu'on a dit que l'urbanisation c'était un des ennemis des potagers, là en l'occurrence ces potagers-là sont un produit en fait de l'urbanisation, puisqu'ils sont nés de l'implantation du chemin de fer au milieu du 19e siècle. Hein, la forme que l'on voit se dessiner ici, appartient à une forme plus grande qu'on appelle le quadrilatère nord, qui est constituée, je crois, aux alentours de 1863. Donc c'est vraiment, la forme. Donc il hérite de l'urbanisation de par la forme qu'il emprunte. Il en hérite également de par les gens et les plantes qui le peuplent, hein, puisque il y a des Espagnols, des Grecs, des Turcs, donc toute une partie de la population bruxelloise qui est issue aussi de l'immigration, et notamment de l'immigration post-Seconde Guerre mondiale, avec la guerre du charbon, la bataille du charbon qu'il fallait mener. Et donc tous ces accords belges qui ont été contractés pour amener toute une population nécessaire à relancer l'industrie lourde après la Seconde Guerre mondiale et l'extraction minière, et également les plantes, hein, puisque notamment ça me permet de faire écho à un récit sur la renouée du Japon, un récit qu'a écrit notamment Livia, puisque là aussi ce sont des plantes qui sont issues d'une mondialisation, d'une urbanisation, d'une accélération des échanges et des circulations, mais c'est aussi un produit de l'urbanisation dans la composition de ces terres, hein, puisque c'est une partie de la ville qui était fortement industrialisée. Non loin de là, il y a le canal vers Charleroi, je crois, j'ai un doute maintenant.
Vers Anvers.
Donc il y a toute une série d'industries aussi qui se sont implantées aux alentours. Donc la composition des terres est héritière de cette urbanisation, parce qu'on y trouve du plomb, du zinc, du cadmium. Donc le plomb peut aussi être, il y a toute une série d'hypothèses qui sont faites sur l'origine de ces pollutions. Donc le plomb pourrait très bien venir également de la pollution automobile, qui jusqu'au début des années 80, je crois, j'ai des doutes, une série de doutes en fait, comportés, impliqués du plomb, etc., etc. Donc industrie, automobile, train. Donc on a là des potagers qui sont donc de leur forme à ce qu'ils les peuplent, à la composition de la terre, des produits de cette longue histoire de l'urbanisation bruxelloise. Alors, mais revenons maintenant à l'histoire relativement récente de ces potagers, puisqu'en 2013, Infrabel, qui est le gérant d'infrastructures belge remet le renom, en fait, met un terme au contrat qu'il avait signé avec les potagistes et qui permettait à ces potagistes, en fait...
Le chemin de fer.
Pardon ?
Tu n'as pas dit que c'était le gestionnaire ferroviaire.
J'ai pas dit, ouais, de l'infrastructure ferroviaire, donc des, ouais, qui ont remet, enfin, met un terme au contrat qui est lié au potagiste et qui permettait, en fait, au potagiste donc, de cultiver, mais aussi à Infrabel d'avoir, finalement, sur place... les personnes qui prenaient soin de ces terres situées entre les voies de chemin de fer, puisqu'il faut savoir aussi que ce sont des terres qui sont gouvernées selon une législation particulière, hein, il y a des arbres ne peuvent pas dépasser une certaine hauteur. Et il est important en fait de gouverner proprement d'une certaine façon ces terres pour ne pas entraver la circulation ferroviaire. Des arbres qui ne doivent pas dépasser 8 mètres de hauteur à une certaine distance des voies de chemin de fer, etc. etc. Donc, Infrabel met un terme à ces contrats pour des raisons relativement obscures, puisqu'en fait la personne qui avait pour charge de surveiller la culture de ces potagers, je suis déjà à 5 minutes. Ces potagers est à la retraite. Infrabel doit réduire très fortement en fait ses dépenses. Donc ça peut être simplement dû effectivement à cette réduction des dépenses très forte. Or donc là un peu les potagistes s'organisent et au même moment, sorte de hasard heureux, la commune de Schaerbeek commandite l'institut Franz Fischer, qui est une école technique du quartier. Pour que l'un des professeurs de cet institut trouve des terres susceptibles en fait, de former les jardiniers de la commune, puisque la commune a beaucoup de mal à embaucher des jardiniers compétents. Sur ce, les seules terres finalement cultivables de la commune, ben, ce sont celles-ci. Donc là, se met en place une série de négociations entre les potagistes qui sont restés et cette école, cet institut technique. Les arguments qu'il convoque pour une négociation pardon, avec la commune, pour que la commune puisse reprendre en son nom la gestion de ses potagers. Alors, les arguments qu'il convoque sont sans ces terres, pas de formation de jardinier pour la commune. Si nous occupons ces terres, le vandalisme va diminuer. Et les élections sont relativement proches. L'échevin chargé des parcs et des espaces verts pourrait en profiter pour verturiser d'une certaine façon son image. En même moment, donc, outre ces arguments qu'ils peuvent avancer, ils occupent le terrain. C'est-à-dire qu'ils vont contacter toute une série d'associations, les apiculteurs, des associations qui ont notamment pour mission de réactiver les traditions associées à la commune de Schaerbeek, notamment la plantation des griotiers. D'autres associations sont convoquées. Donc il y a une occupation du terrain pour renforcer les liens et peut-être rendre aussi en fait, ces terrains-là moins fragiles qu'ils ne le sont jusqu'à présent. Alors ces négociations vont porter, puisqu'effectivement, début 2014, la commune accepte de reprendre ce terrain en gestion. Mais là, coup de semonce supplémentaire, des analyses des sols sont faites, et il s'avère qu'effectivement, les terres sont polluées. Et là, ça a été vraiment une dévastation pour tous ces collectifs qui se sont constitués pour ces potagers et autour de ces potagers. Puisque les administrations, aussi bien Frabel d'ailleurs, qui possède ces terrains, que la commune balbutie. En fait, un tel diagnostic, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Une sorte d'irrémédiabilité du diagnostic qui a donc des effets dévastateurs, puisque ce peuplement dont je vous parlais jusqu'à présent, donc des collectifs, etc., bah, toute une série de personnes vont quitter ces terres. Et pourquoi, en fait, ils ne savent pas rien faire ? Parce qu'en gros, la batterie des solutions existantes, c'est soit on remplace ces terres, soit on les recouvre, soit on ferme les potagers. Donc on ne sait pas composer, on ne sait pas travailler avec cet héritage industriel, urbain, etc. de ces terres. Les potagistes, quant à eux, d'une certaine façon, enfin, l'intelligence se trisse. C'est vraiment situé dans cette enquête du côté des potagistes, puisque d'une part, en fait, ils interrogent les cadres de l'expertise. Mais qu'est-ce que nous dit finalement l'expertise de ces terres polluées ? Seulement une partie des terres est analysée. L'expertise, en fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser effectivement à des diagnostics de pathologie irrémédiable, puisqu'en fait, ce diagnostic, il tombe et puis il n'y a plus de possible, tous les possibles sont dévastés. Il questionne aussi la relativité de l'expertise, pourquoi considérer ces terres si comme polluées, alors que les terres agricoles de l'agriculture industrielle sont énormément polluées aussi, hein, ça c'est un fait sur de nombreux militants. Eux, ils en profitent de cette occasion pour tisser toute une série de relations, notamment avec des universitaires, pour mettre en place et expérimenter des techniques de phytoremédiation, hein, utiliser des plantes pour extraire les métaux lourds ou certains polluants de la terre. Ils en profitent également pour façonner de nouveaux savoirs relatifs à ces cultures, quel type de légumes, quel type d'arbres, etc., d'arbres futiles ou non, peut-on planter sur ce type de terre pour qu'on puisse consommer, pour qu'on puisse les consommer ces légumes ou ces arbres. Et autre chose aussi importante, c'est qu'ils ne se contentent pas de vouloir résoudre le problème de la pollution, ils essayent de tout tenir, c'est-à-dire qu'ils mettent en place notamment un projet qui consiste à embrasser l'intégralité des problèmes qui traversent ces terres, donc liés notamment aux immondices, à la présence d'usagers de drogue, et à les revitaliser à partir de ce qui les traverse, et non pas à partir de solutions toutes faites qui, là, en l'occurrence, n'existent pas. Et là, je crois que c'est... En fait, moi, j'ai beaucoup appris de ces potagistes à cet endroit-là, puisqu'il y a une véritable intelligence. Plutôt parler d'atomisation, plutôt que d'atomiser les problèmes, c'est pollué, on ne sait pas quoi faire, on va tout mettre en relation. On va utiliser effectivement toutes les pratiques qui traversent ces potagers-là pour tenter de les réactiver et saisir à partir de là l'occasion de produire de nouvelles pratiques, de nouveaux savoirs. Malheureusement, comme on l'a dit avant, ces potagers sont fragiles, puisque un nouveau type de pollution a été diagnostiqué il y a très peu de temps, et ces potagers sont aujourd'hui, de façon temporaire, fermés. Et ceci vient renforcer le diagnostic que Bénédicte a énoncé juste avant. En fait, il n'y a pas de place, en tout cas dans ce lieu-là, pour l'expérimentation. Il n'y a pas de place pour tenter effectivement de nouer, de fabriquer de nouvelles pratiques. Et si on peut considérer les sols pollués comme une image ou un des aspects de cette catastrophe dont on parlait avant, on peut dire que finalement la catastrophe continue, puisqu'elle a désemparé un grand nombre d'acteurs qui tournent autour de ces potagers de la possibilité même de penser, de mettre en place des pratiques susceptibles de revitaliser et de réactiver ces terrains.
Donc voilà un des récits complexes qui pose des tas de questions, qui qualifie la catastrophe, qui essaye de vivre avec, mais en l'occurrence ici ça devient vraiment très compliqué. Un autre récit que je vous propose, qui est un récit qui a été beaucoup travaillé par Noémie, c'est un récit qui nous mène dans un autre endroit de Bruxelles, hein, pour le situer. Donc avec Alexis, on était plutôt au nord-ouest. Moi, je vais vous emmener là où il y a les taches vertes foncées, enfin les plus foncées qui apparaissent à l'écran, c'est-à-dire des potagers qui, a priori, ont une plus grande longévité. C'est dans la commune de Jette, donc une autre des 19 communes bruxelloises. Alors, Bénédicte disait, amenait la notion d'art de vivre, qui serait plutôt les dimensions enthousiasmantes, qui ouvrent à des possibles, qui misent sur les forces de l'existant. Alors, on peut entendre tout ça et on peut nourrir cette notion d'art de vivre de cette manière-là, mais il faut bien dire que dans le cas de Jette et des potagers sur lesquels je vais essayer de vous emmener un tout petit peu, c'est pas forcément les potagers qui, a priori, comme ça, de notre point de vue, sont les plus sympathiques, ceux dont nous voudrions absolument adopter les arts de vivre, entendus comme on vient de le dire. Et pourtant, on y a été, enfin, surtout Noémie, et pour essayer de voir au-delà de justement ces arts de vivre qui nous paraissaient peut-être moins légitimes ou moins sympathiques que d'autres, malgré tout une richesse insoupçonnée, incroyable, et surtout cette longévité. Parce que, voilà, dans ce coin de l'agglomération bruxelloise, les taches les plus sombres, enfin les cercles que vous voyez les plus sombres, représentent quelques hectares avec quelques centaines de parcelles, 110 sur un des sites, à peu près l'équivalent 150 sur un autre site. Donc c'est quand même beaucoup plus que la rue Navet dont Alexis parlait. Et ils sont en activité depuis les années 40. Et là, on peut à peu près retracer qu'ils ont été créés à l'occasion ou au moment de la Deuxième Guerre mondiale, dans cet effort nourricier qui était demandé, mais ils s'inscrivent dans quelque chose qui est encore bien plus long, puisqu'en fait, c'est l'œuvre royale du coin de terre. Alors, c'est sans doute un nom qui doit... Enfin, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des potagers et des jardins, en France, en Allemagne, dans des tas de pays d'Europe, on a ces équivalents. Je pense qu'en France, c'est la Ligue du coin de terre également. Hein. Je ne suis pas tout à fait sûre. Mais... Donc, c'est ces entreprises paternalistes, les œuvres sociales de la fin du 19e siècle, issues des milieux chrétiens. En l'occurrence, en Belgique, c'est un abbé Gruel et un éditeur, mais lié au milieu catholique, qui se met à la barre de cette initiative. En France, c'est l'abbé Lemire. Ça, si vous connaissez un peu l'histoire, c'est un nom qui est assez connu. Et donc, ils se mettent à la tête de cette œuvre sociale. Et qu'est-ce qu'ils prônent? Et déjà là, c'est quand même pas si inintéressant, malgré le côté paternaliste, le côté très ancré dans les milieux catholiques en Belgique. Et en Belgique, être catholique ou ne pas être catholique, c'est vraiment des choses très différentes. C'est une histoire différente de la France, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il prône à ce moment-là, à la fin du 19e siècle? C'est l'idée, et donc on en revient à ce que tu disais, Jérôme, au début, d'un foyer et d'un jardin insaisissable. Et donc, il y a vraiment l'idée que les deux, en fait, sont liés. Qu'il y a le domestique, mais que le jardin n'est pas simplement une extension du foyer, il en fait carrément partie. Donc c'est une entreprise, une association qui est vraiment dans une veine qu'on pourrait caractériser de paternaliste, hein, qui fonde sa vision sociale sur le mérite. Évidemment, les jardiniers qui vont peupler les coins de terre de cette œuvre vont participer à des concours du plus productif, de celui qui entretient le mieux. Donc il y a vraiment l'idée du mérite, de la famille, évidemment, hein, que ça, c'est d'abord un acte nourricier pour la famille, le foyer. C'est évidemment paternaliste dans le sens où on a clairement l'idée qu'il faut encadrer les classes laborieuses, mais et qui inclut aussi, et ça c'est peut-être un peu particulier, l'idée que un rapport particulier à la nature, d'inspiration chrétienne et catholique, c'est-à-dire avec quelque chose qui nous transcende, hein, donc Dieu, se joue aussi dans la culture de la terre. La terre qui est, il y a quelques citations hein, que Noémie a retrouvées aussi, la terre qui est la seule vérité productive, directe et immédiate. Hein. Tout le reste, c'est de la transformation. Mais là, on est quelque chose qui est de l'ordre du transcendant et de l'immédiat. Enfin, on a quelque chose qui se noue là, qui est assez particulier. Et à partir de l'entre-deux-guerres, hein, cette œuvre du coin de terre, ou après la Première Guerre mondiale, à travers l'expérience de la Première Guerre mondiale, évidemment, où cette notion de subsistance a été mise à l'épreuve, évidemment, le coin de terre gagne quelque part en lettres de noblesse, en tout cas aux yeux des administrations communales, des autorités communales. Et là, on revient peut-être à l'idée de médiation ou de médiateur. Se fait le médiateur ou la médiatrice entre cette idée paternaliste, des jardiniers qui cherchent des terres, donc qui cherchent à avoir accès à des terres, et les autorités communales, et ça donne même éphémèrement, quand même pendant une quarantaine d'années, à un office des cultures, à l'intérieur même de l'administration de l'assistance publique à Bruxelles. Donc pendant une quarantaine d'années, enfin peut-être 30, il y a un office des cultures qui est issu du lobbying de l'œuvre royale, enfin plutôt de la Ligue du coin de terre, qui se met en place dans le cadre de la bienfaisance. Bon, donc on est quand même dans des idées paternalistes, d'assistance, etc., mais malgré tout, qui arrive à instituer quelque chose. Donc là, on est aussi dans des tensions intéressantes. Alors, donc ça marche à Bruxelles de cette manière-là, donc la commune de Bruxelles, qui est la commune centrale, ça marche aussi très bien à Gette, donc là où on va mettre un peu plus la focale, où l'alliance avec le pouvoir communal, les institutions communales, fonctionne très très bien, au point qu'aujourd'hui encore, hein, donc 60 ans ou même presque 8 décennies plus tard, l'un et l'autre sont encore intimement liés. C'est-à-dire, et ça c'est Noémie qui me l'a rapporté, c'est quand on veut essayer de s'adresser à la Ligue du coin de terre, enfin à l'œuvre royale du coin de terre, parce que les nominations ont un peu changé, on renvoie à la commune. Et la personne qui s'occupe de la gestion ou de la supervision, parce qu'on va venir à l'idée du contrôle, la supervision de cet ensemble, est en fait, a longtemps été un employé communal. Et donc là, on a vraiment une alliance, une interaction très forte qui s'est faite à partir de l'entre-deux-guerres et qui s'est cristallisée, qui s'est formalisée dans l'existence de ces potagers à Gette. Donc dans le cas de Gette, hein, les arts de vivre ici ont passé par une négociation incessante, des alliances nécessaires aussi avec les propriétaires de la terre. Alors ici, il y a des opérateurs publics, mais il n'y a pas que des opérateurs publics qui sont propriétaires de la terre et qui ont un effet sur l'institutionnalisation. Et c'est sans doute en partie ça, parce que je vais arriver à d'autres choses, qui a fait que ces potagers existent toujours, ces potagistes, ces potagers. Alors, quel est l'effet de cette institutionnalisation sur les pratiques, hein, parce qu'on parle aussi beaucoup de pratiques potagères, Ben, il faut bien dire que les pratiques de la terre sont toujours un petit peu à l'image de ce double héritage, qui est à la fois cet héritage paternaliste, mais aussi celui d'une institutionnalisation par la commune. Et donc, sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit, hein ? C'est pour ça que je disais qu'il y a des idées très différentes des potagers. On voit des clôtures, des parcelles tirées au cordeau, une terre qui est généralement plutôt à nu que chargée de mulch ou de pratiques de permaculture, des cabanes qui sont toutes les mêmes, qui ont la même couleur, des hiérarchies, un chef de secteur, des contrôles 4 fois par an pour savoir si... Donc, voilà. Et dans le règlement d'ordre intérieur, il y a quand même, on les a reprises ici, donc il y a c'est une association de fait, donc elle n'a pas d'existence légale tout à fait claire, mais c'est clair qu'elle existe de fait, et elle a quand même un règlement d'ordre intérieur qui est assez strict. Et il y a deux clauses qui sont particulièrement intéressantes, hein, donc je vous les ai reprises ici. Hein. Donc une des clauses, c'est de cultiver un lopin de terre de manière permanente, en l'affectant à la culture potagère. Pas des fleurs, pas des mauvaises herbes, servant à l'alimentation humaine, pas animale. La culture de fruits ainsi que celle de fleurs est souhaitable, mais ne peut constituer une exclusivité. On précise un peu le propos. De toute manière, la partie du lopin de terre affectée à la culture potagère ou fruitière doit représenter au moins 70% de la surface totale du lopin, avec un maximum de 50% d'un même légume ou de fruit. Donc on a là des contraintes en termes de production, de subsistance, hein, on va voir, et vraiment de subsistance au sens strict du terme, parce que c'est l'article suivant, pas de monoculture, vraiment l'idée du coin de terre de l'origine du 19e siècle. Deuxième clause stricte, hein, donc on ne vous a pas toutes mises, mais il est interdit aux membres de vendre même partiellement le produit de la culture. Donc, on a ici vraiment une déconnexion, une injonction à la déconnexion totale avec des logiques de marché ou d'enrichissement ou avec l'idée qui est quand même issue de cette époque paternaliste que le potager sert à faire des économies puisqu'il sert à l'autosubsistance ou à la subsistance. Il permet par ailleurs au ménage, au foyer, à la famille d'économiser. Économie qui, à l'origine, même dans les écrits de la Ligue du coin de terre, devait être investie dans l'achat d'un logement. Et en Belgique, c'était facilité par un accès à la propriété à ce moment-là. Bon, ça, c'est le sous-titre, c'est le sous-bassement. Mais dans le règlement, il reste encore aujourd'hui ces deux clauses-là. Et donc, on a une injonction à la productivité, donc une nécessité productive, puisque c'est de la subsistance, mais une interdiction de marché, qui, quelque part, sont probablement des clauses qui ont contribué, en plus des alliances avec la commune, qui ont contribué à la longévité de ces endroits dans la ville. Parce qu'évidemment, soustraire aux logiques de marché, ça a été les mettre à l'abri de toute la réorganisation des circuits alimentaires, notamment la grande distribution et des choses comme ça. C'est vraiment soustrait, l'idée que c'est soustrait aux logiques du marché dans toutes ces déclinaisons. Et donc, on a ici, quelque part, un modèle de jardin, un modèle, on pourrait dire, un peu autoritaire, hein, ou très autoritaire, hein, selon les visions. Hein. Un modèle qui percole depuis le 19e siècle, mais qui en lui porte à la fois, je dirais, des éléments, bien sûr, conservateurs, mais aussi des éléments émancipateurs et des éléments de résistance. Et aussi des éléments qui n'empêchent pas la transformation. Tant qu'on peut rester dans ces deux clauses-là et peut-être d'autres, en fait, ça fait des outils pour résister. Alors, si on doit conclure ce petit tour d'horizon sur ce récit-là, qui est peuplé de bien d'autres choses, on voit qu'on a à la fois une morale héritée depuis le 19e siècle, mais qui se module, parce qu'on peut progressivement, on a interdit les intrants chimiques, par exemple, donc jusqu'il y a dans les années 90, l'intrant chimique était la loi. C'est le modèle du jardin productif, donc y compris qui intègre les logiques de l'agriculture productive, donc intrants chimiques. Par exemple, ceci a changé. Il y a aussi une scission. Il y a quand même à un moment donné un parti des potagers qui a fait scission par rapport à ce modèle-là pour un petit peu varier. Pour un peu varier les cheminements possibles, les expériences possibles, qui s'appelle le potager du chemin des boutons, mais qui reste intimement alliée aux politiques communales. Donc on a perdu une part de l'héritage, mais on en a gardé un autre, et on continue à exister. Et donc, quelque part, se confronter à ces terrains, ces arts de vivre qui, a priori, pourraient susciter une certaine méfiance, hein, par exemple, à des visions progressistes, montre quand même qu'il y a une très grande complexité. C'est ce que Bénédicte a apporté dans l'introduction. Il y a vraiment une très, très grande complexité des terrains. Beaucoup de représentations qui circulent et qui nous interrogent, finalement, sur les modèles ou le peuplement des modèles pour le futur.
Est-ce que j'ai le temps pour un troisième récit ? Ok. Alors moi, je vais vous raconter donc le récit, je n'en ai écrit qu'un, sur lequel j'ai travaillé. Le point de départ est assez simple, c'est le témoignage d'un ancien habitant de Aaren, qui est tout au nord de la ville et qui était une terre de maraîchage jusqu'au début du XXe siècle, et qui, depuis lors, a été annexé par la ville de Bruxelles et puis, peu à peu, transformé en terre de relégation, on pourrait même dire de dépotoir ou de coulisses pour la ville. Donc c'est là que la ville et l'État ont installé chemin de fer, l'OTAN, l'aéroport, puis on a déplacé l'aéroport, zoning, pôle de recherche, etc. Et cet habitant dit, est en colère, au fait, on est en 1976, et il dit « C'est non sans mal du pays que je repense au village de mon enfance. Aaren était une perle transmise des temps des Autrichiens. Avec d'autres villages situés au nord des faubourgs, ils formaient un immense jardin de maraîchage d'où partaient, tous les matins, des cargaisons entières de légumes à destination des marchés bruxellois. Je vois encore toutes ces femmes partir pour les crier, portant sur la tête des paniers remplis de carottes, de poireaux, de céleri et de salade. » Et je tombe là-dessus dans une revue de folklore pour amateurs historiens, et je ne sais pas quoi en faire, parce qu'il décrit assez bien son village. Donc il décrit la colombophilie, les interactions des villageois avec l'aristocratie locale, etc. C'est, on dirait a priori, pure nostalgie. Et en même temps, je me disais, mais... voilà, ce maraîchage était là avant que cette zone devienne zone de relégation. Et en plus, c'est un lieu où il y a un fameux enjeu pour l'instant, parce qu'on veut maintenant y construire sur les dernières terres qui restent, en friche, on veut construire une méga prison, je vous passe les détails, et il y a maintenant une occupation par des zadistes, etc. Enfin, donc toute une histoire. Et qu'est-ce que je fais de ça, vu aussi notre objet ? Donc, être à la hauteur de sa colère, parce qu'il est en colère quand il voit tout ce qui commence, voilà, ce paysage a disparu. Et j'ai assez vite réalisé que de constater la disparition du maraîchage ne suffirait pas, et qu'il faudrait essayer d'évoquer ce qu'il décrit, donc cette région, ce qui a subsisté, ce passé, de telle façon à ce qu'il soit actif ou puisse être réactivé aujourd'hui, ne fût-ce que partiellement et à tâtons. Où est-ce que cet héritage se joue encore, même s'il n'y a plus de maraîchage ? S'il n'y a pas ça, je ne voyais pas très bien ce que je pourrais faire, sauf que de dire, ben voilà, c'est acté, c'était le passé, et sachez quand même qu'un jour, il y a eu ça. Et donc, ça a été vraiment tout mon problème. Qu'est-ce qui se joue ici ? Donc, à nouveau, cette intrigue. Et ça m'a pris des mois et des mois, cette histoire. Finalement, je réalisais que le problème était le suivant. Que pour la plupart d'entre nous, bruxellois, à Aaren, en gros, il n'y a rien. Et il n'y a rien doublement. Du point de vue de ceux qui font de la recherche, ben, on ne trouve pas les sources, il n'y a pas de traces, il n'y a que quelques témoignages. Je dois aller dans des revues de folklore, etc. et je ne trouve rien. Puis c'est de la nostalgie, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça. Donc c'est une histoire qui n'a pas été enregistrée, donc ça c'est déjà un premier problème. Et puis il n'y a rien parce que, et ça c'était mon plus gros problème en fait, parce que des bribes on trouve quand même, hein. Mais on n'y voit rien. J'y voyais rien du tout. J'y voyais, comme plein d'autres chercheurs d'ailleurs, le dépotoir, le désastre, la disparition, ça je voyais. C'est difficile de ne pas le voir, on entend les avions qui passent, on voit les chemins de fer, etc. On sent tout de suite qu'on est dans une zone de relégation de la ville. Et donc, je voyais que ça, d'une certaine façon. Et quand on se tourne, et là j'ai aussi lu des récits d'architectes qui se sont intéressés à ce qu'on appelle un peu ce dépotoir, donc Quand on essaye de se tourner vers le ou les quartiers, là où, parce qu'il y a encore des résidents, tout ce qu'on voit, au fait, c'est un échec d'urbanisation. Ce n'est pas à la hauteur, c'est un quartier, c'est du n'importe quoi, les rues ne sont pas alignées, ce n'est pas du bon urbanisme, pour le dire comme ça. Et en plus, des gens résignés, ils acceptent avec fatalité leurs choses. Donc, y voir quelque chose a été finalement toute la difficulté, et ce à partir donc des bribes. Bribes que j'ai finalement été chercher dans un comité d'habitants qui, parce qu'il y a quand même, quand on dit ils sont résignés, il y en a quand même quelques-uns qui font quelque chose. Et donc ce comité d'habitants a un archivage qui collecte genre les boîtes aussi de la vieille dame. Donc finalement on trouve quand même par les sites internet, il y a une télévision locale aussi que j'ai découvert, etc. Donc petit à petit je trouvais quand même des choses. Et ce que j'ai découvert, ben, et voilà, il y en a plusieurs, mais je vous donne quelques éléments. C'est que quand j'ai commencé à lire donc, tout ce que je trouvais sur Internet, finalement, et qui sont vraiment des postages d'archivage et ce genre de choses, c'est que l'échec de l'urbanisation a été acté. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas un quartier comme un autre et qu'au fait, rien n'a été fait pour leur espace public, etc., etc., parce que ça n'en valait pas la peine, puisque de toutes les façons, personne ne voudrait aller habiter là. Donc, échec de l'urbanisation qui a été acté et qui, petit à petit, au début des années 80, a été vu comme peut-être une opportunité ou en tout cas, ben, on n'est pas comme les autres, on n'est pas comme Bruxelles. Et c'est peut-être pas une si mauvaise chose qu'on ne soit pas là avec nos grands boulevards, nos espaces publics bien lissés, etc. Nous, on a encore nos arrière-cours. Nous, on a encore toutes ces choses qui sont ce qu'on appelle, en termes urbanistiques, le territoire vernaculaire. Donc, il y a encore de cet ordre, il y a encore ce genre de choses-là. Une chose que j'ai appris aussi en lisant un peu ce qui se passait d'un côté, mais aussi les histoires d'annexion, c'est qu'au fait, tout simplement, on peut raconter cette histoire de dépotoir comme une simple histoire de rapport de classe. C'est-à-dire, ce que j'ai appris là-dedans, c'est que Bruxelles essaie d'étendre son territoire, c'est la bourgeoisie qui essaie d'étendre son territoire et qui ne réussit pas et qui finalement décide d'en faire plutôt une zone de relégation, puisque comme ça, ben, ça sert quand même à quelque chose. Mais alors, rapport de classe, et c'est ça pour moi qui a été assez intéressant, rapport de classe, pas dans l'idée que les classes se luttent pour un territoire, comme si le territoire serait neutre, mais rapport de classe comme une classe dotée de territoire. Une classe dotée d'une perspective. Et la raison pour laquelle je n'y voyais rien avait beaucoup à voir avec cette question de classe et de perspective et de quel territoire on habite, etc. Pas pour dire je viens de telle ou telle classe, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais les appareils de recherche dans lesquels je suis prise, d'une certaine façon, ne me permettaient pas de voir ce à quoi je ne suis pas prête de voir. Donc je voyais le dépotoir, je voyais la ville, je voyais le maraîchage passer, et j'ai réalisé, donc en allant à un comité de soutien pour la ZAD, qui est une toute petite ZAD au nord de Bruxelles, que là aussi j'entendais parmi les militants, de toute façon il n'y a rien là, il n'y a rien. C'est quand même assez fou à quel point on arrive à continuer à le dire. Alors, territoire autre, donc, quel est ce territoire autre que j'ai alors finalement essayé de recomposer avec les bribes que j'ai trouvées? Mais finalement, j'en suis arrivée à dire, c'est un territoire donc tel qu'il se dégage des témoignages et des bribes, tel qu'il est décrit par les habitants qui sont nés ou qui viennent s'y installer, c'est un territoire où se mêlent les quelques avantages présentés par les grandes infrastructures, en particulier les chemins de fer qui pourtant ont été un vecteur de ravage, mais d'une certaine façon sont appropriés et on commence à y voir un intérêt, avec les avantages des terres en friche, des potagers, des lieux non urbanisés, puisqu'il y a encore pas mal de terrains non urbanisés. Et donc, quand on les écoute, ils parlent moins du village qui était mon impression, un peu un village qui a été annexé mais qu'on n'a jamais urbanisé, mais que des survivances et des coexistences, au fait, contrastées. Ils parlent énormément des coexistences. Décrivez-moi Aaron, donc il y a une base de données sonore, Et ce sera très fort sur, ben, il y a les moutons et en même temps la gare, et je suis tout de suite en ville, et des coexistences de cet ordre-là, faune et flore, biodiversité, il y a des renards, il y a de ceci, mais en même temps on est quand même en ville. Aussi très fort le discours de c'est grâce aux infrastructures, c'est dans l'ombre et grâce à l'arrivée des grandes infrastructures qu'on a encore des terres en friche, qu'on a encore des terres et des animaux et des espèces rares, etc., etc. Donc terre de, moi j'ai appelé ça de recomposition, mais il faudrait aller voir. Alors la chose que je voudrais dire, une chose qui m'a frappée aussi, c'est que voilà encore deux petits points, c'est que de les entendre parler, il n'y avait pas la haine vis-à-vis des nouveaux habitants. En fait, il n'y avait pas de problème par rapport aux vieux ou aux nouveaux, ce à quoi je m'attendais totalement, puisque les vieux, ben, c'est encore ceux héritiers de maraîchage, et puis les nouveaux, ben, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui vont là, ou qui veulent une propriété pas trop chère, mais qui viennent quand même plutôt de Bruxelles. Et ils ne font pas vraiment la distinction. Et je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout dans une situation de gentrification et qu'en fait, cette différence-là, elle n'a de sens que si on est dans des situations de gentrification, c'est-à-dire quand il y a rupture, quand il y a oubli, quand un quartier supplante un autre. Au fait, la territorialité, OK, elle est ravagée, elle est à l'ombre des infrastructures, etc., mais elle continue. Donc eux, les anciens, j'ai un entretien avec un ancien qui dit « Mais génial, ça continue. Moi, ce qui importe, c'est que Arnes subsiste et continue. » Et là, dernier point, c'est une des choses que j'ai appris en essayant de voir donc, ce territoire autre et de prendre au sérieux ce qui racontait ces quelques personnes, c'est que l'importance de la continuité, en fait, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé en allant voir un peu ce qui s'était fait lors de l'annexion, qui a été une annexion brutale, sans consultation, ni rien, en 1921. Au fait, on dirait ben, ils ont réagi de façon résignée, fataliste, etc. Mais quand on va voir un peu ce qu'il y avait dans la presse locale ou ce qui se racontait, ils le prennent avec beaucoup d'humour et surtout, ils préparent les générations à venir. Eux, c'est des nouveaux maîtres. C'est la culture populaire, c'est les maraîchers, etc. De toutes les façons, ils sont pas, ils savent bien que c'est un maître ou un autre. Et c'est comme ça qu'ils en parlent. C'est juste un nouveau maître, on en avait une élite, une autre élite arrive, etc. Nous, notre question est de savoir comment on va survivre, comment on va continuer. Et le moment où j'ai une trace de révolte et de colère, c'est au moment où ils sont expropriés, où les maraîchers en 1979 sont expropriés de leur dernière grande parcelle de terre, et où, au fait, ils sont expropriés pour des infrastructures, là où ils pensaient pouvoir les léguer à la génération suivante. Et donc cette histoire de génération, ils étaient prêts, ils disaient, ben voilà, eux vont devenir des urbains, nous on est du passé, les maraîchers, ben c'est une... ok, ben on disparaîtra, mais tant que nos enfants peuvent continuer, tant qu'eux auront des terres, tant qu'eux pourront vivre, et quitte à ce qu'ils soient des Bruxellois qui parlent français, puisque eux parlaient plutôt flamand. Et donc ça c'est une chose que j'ai découvert aussi, et c'est ça que j'essaie alors de faire vivre, dans le sens où c'est encore, je crois, actif dans ces territoires recomposés de coexistence de survivantes, et c'est aussi actif parmi quelques francophones jeunes qui réclament une autonomie pour Arren, etc. C'est un passé qui n'a pas été complètement oublié et qui se réactive d'une autre façon. Voilà, ça c'est un des récits aussi, donc pour vous dire, ces trois récits... très différents, il y en a 16, et à chaque fois, on essaye, au fait, de faire vivre d'autres dimensions.
Alors, je vais juste conclure, mais ce sera très court. voilà, je crois, à la fois à travers ce que Bénédicte vient de dire, et puis sur les trois récits qu'on a proposés, on voit bien que la notion de brassage des temps qui était à la fois amenée dans l'introduction et dans notre titre, hein, passé, présent et avenir, des jardiniers en ville. Donc ce brassage des temps, pour nous, il est vraiment essentiel, et c'est à travers le travail, que l'enquête qu'on mène, en fait, c'est ça qu'on essaye de tisser aussi. C'est des histoires qui incluent le présent, qui incluent le passé, et qui permettent de se projeter sur des futurs autres. Et donc, à travers ces histoires, ben, on aime bien relever les forces, relever les faiblesses, les fragilités, enfin les faiblesses ou fragilités. pas parce qu'on pense qu'on aurait là la vraie histoire, mais parce que c'est une histoire qui permet de tenir. C'est une histoire qui est chargée de vivier de possible hein, pour l'avenir. Face à des discours médiatiques et politiques qui ont la fâcheuse tendance à ne miser que sur l'avenir, sur le futur, sur l'idéal des promesses, les promesses d'avenir, en fait. Et donc, nous, quelque part, on renverse un peu le... Enfin, renverser, pas complètement, mais on rejoue un peu cette articulation sur le futur en l'arquant sur le brassage des temps autres, le passé et le présent. Et parce qu'on croit aussi que c'est là une faiblesse particulière de ces potagers face à l'ennemi qui a été décrit hein, stratégiquement. C'est justement que cette histoire n'a jamais été écrite. Enfin, cette histoire ou une de ces histoires, puisqu'on ne prétend pas en faire l'histoire avec un grand H, mais que ces histoires-là, elles n'ont jamais été écrites, elles n'ont jamais été travaillées, et que c'est précisément ça qui contribue à leur fragilité supplémentaire. C'est qu'il n'y a pas d'histoire, de récit qui puisse circuler. Et donc, il y a peut-être plein de choses qui pourront revenir dans la discussion, mais quelque part, une autre façon de faire vivre ou de penser la ville que celle que l'ennemi nous propose, hein, l'ennemi tel qu'il a été qualifié avec ses visions de futur radieux, c'est faire exister un territoire avec l'idée que les territoires ne se valent pas, qu'ils sont tous différents, hein, qu'ils soient micro, enfin à quelque échelle qu'ils soient pris, mais surtout avec le ici et maintenant.